VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du lundi 15 juillet 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Soudan, un civil a été tué et 7 autres personnes blessées par des paramilitaires des RSF.
En République démocratique du Congo, un cas d'Ebola, le premier, a été confirmé à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Appel au calme des autorités.
Ici aux États-Unis, pas d'arrestation massive d'immigrés clandestins hier dans les grandes villes du pays.
Le président Donald Trump, critiqué après des tweets jugés racistes et xénophobes par ses adversaires.
Nucléaire iranien, Paris, Londres et Berlin appellent à arrêter l'escalade des tensions.
En sport, ne manquez pas les dernières nouvelles de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour l'instant, le journal.
Des paramilitaires soudanais ont tué un civil et blessé 7 autres personnes hier dans une ville au sud-est de Khartoum. Des détails avec Jean-Roger Bion.
L'incident s'est produit dans la ville d'Al-Souk après un rassemblement d'habitants réclamant le départ de leur ville des forces de soutien rapide, un groupe de paramilitaires. Des habitants se sont rassemblés devant les bureaux du Service national de renseignement et de sécurité soudanais, Nice, pour se plaindre des RSF, a affirmé un témoin. Des membres de RSF ont été déployés et ont d'abord commencé à tirer en l'air, mais ils ont ensuite ouvert le feu contre les habitants, tuant un homme et blessant plusieurs autres personnes, a ajouté ce témoin. Un comité de médecins proche de l'Alliance pour la Liberté et le Changement, ALC, fer de lance de la contestation au Soudan, a confirmé le déroulé des événements. Selon des témoins, les habitants d'Al-Souk ont protesté devant le bureau du Nice après un raid samedi des RSF dans un centre dédié aux jeunes lors d'un rassemblement en mémoire des manifestants tués dans la dispersion le 3 juin d'un sit-in à Khartoum.
En Algérie, l'ex-ministre de l'Industrie, Youssef Youssefi, poursuivi notamment pour dilapidation de deniers publics, a été placé hier en détention provisoire, selon la télévision publique algérienne. Le point avec Morgane Guériac.
En poste entre 2017 et 2019, l'ex-ministre est poursuivi pour octroi d'indus avantages lors de l'attribution de marchés publics et de contrats en violation des dispositions législatives, dilapidation de deniers publics, abus de pouvoir, de fonction et conflit d'intérêts. Les dossiers de M. Youssefi et de 10 autres hauts responsables ou anciens responsables algériens avaient été transmis à la Cour suprême, juridiction compétente dans l'enquête visant l'influent homme d'affaires algérien Mahieddine Tahout. M. Tahout, proche du président déchu Abdelaziz Bouteflika, a été placé en détention provisoire il y a plus d'un mois, en compagnie de son fils et de 2 de ses frères, dirigeants de son groupe, pour des affaires de corruption. Depuis la démission forcée d'Abdelaziz Bouteflika début avril, sous la pression conjuguée d'un important mouvement de contestation populaire et de l'armée, la justice algérienne a ouvert une série d'enquêtes pour des faits de corruption et condamné ou placé en détention provisoire d'influents hommes d'affaires et ex-responsables politiques.
Un premier cas de fièvre hémorragique Ebola a été enregistré hier à Goma, en République démocratique du Congo. Cette ville d'environ 1 million d'habitants est la plus grande touchée depuis le début de l'épidémie, le 1er août 2018. C'est ce qu'a annoncé le ministère congolais de la Santé, qui a demandé à la population de garder son calme. Le risque de propagation dans le reste de Goma reste faible, estime le ministère. Le malade est un homme arrivé dimanche matin par bus avec 18 autres passagers et le chauffeur. En provenance de Butembo, l'un des principaux foyers de la maladie dans la province du Nord Kivu.
Des milliers de supporters de l'équipe de football d'Algérie ont explosé de joie hier soir en France après la qualification pour la finale de la CAN de leurs favoris. Des scènes de liesse ont cependant laissé place à des tensions ou incidents dans la nuit à Marseille, Paris et Lyon. Jeudi après la qualification de l'Algérie en demi-finale, les festivités avaient été endeuillées à Montpellier par la mort d'une mère de famille fauchée par un chauffard.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, les descentes de police de l'immigration pour interpeller quelques 2000 clandestins en vue de leur éventuelle expulsion ont commencé sans qu'on ait observé des activités d'ampleur hier. Le chef par intérim de la police migratoire, Matt Albans, a souligné que ses services ne faisaient qu'exécuter des décisions de tribunaux américains, mais il a refusé de donner des informations sur les villes où ces interpellations ont eu lieu et combien de clandestins ont été jusqu'ici détenus. Cependant, dans les communautés de migrants de villes comme New York, Miami, Atlanta et Baltimore, la grande crainte d'agents défonçant des portes ne s'est pas matérialisée.
Par ailleurs, nouvelle controverse autour du président Donald Trump après une série de tweets qualifiés de racistes et xénophobes par ses critiques. Monsieur Trump a ciblé, sans les nommer, plusieurs députés progressistes démocrates du Congrès américain qui, selon lui, et je cite, « devraient retourner dans ces endroits infestés par la criminalité d'où elles viennent ». À noter que seule une de ces quatre élus non-blanches est née ailleurs, Ilhan Omar du Minnesota, originaire de Somalie.
La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, les trois signataires européens de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, ont lancé hier un appel commun pour arrêter l'escalade des tensions et reprendre le dialogue, selon un communiqué commun. Le point avec Arzouma Compaoré.
Dans ce texte diffusé par la présidence française, Paris, Londres et Berlin se disent préoccupés par le risque que l'accord de 2015 ne se défasse sous la pression des sanctions imposées par les États-Unis et à la suite de la décision de l'Iran de ne plus appliquer plusieurs des dispositions centrales du texte. Par ailleurs, nos trois pays sont profondément troublés par les attaques auxquelles nous avons assisté dans le Golfe Persique et au-delà, ainsi que par la détérioration de la sécurité dans la région. Nous pensons que le moment est venu d'agir de façon responsable et de rechercher les moyens d'arrêter l'escalade des tensions et de reprendre le dialogue. L'Iran avait décidé en mai, un an après le retrait unilatéral des États-Unis de l'accord international de 2015 visant à limiter son programme nucléaire, de cesser de limiter ses réserves d'eau lourde et d'uranium enrichi. Alors que nous continuons de soutenir l'accord, sa poursuite dépend du plein respect par l'Iran de ses obligations, écrivent dimanche les trois États européens pour lesquels des signes de bonne volonté sont nécessaires de toute urgence de la part de toutes les parties, soulignent la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne.
À Hong Kong, de violents heurts se sont produits hier soir entre la police et des manifestants à l'issue d'un rassemblement massif protestant pour la cinquième semaine consécutive contre le gouvernement local soutenu par Pékin. De nouveau, Jean-Roger Bion.
À plusieurs occasions dans la journée, les forces de l'ordre ont utilisé du gaz poivre et des matraques contre de petits groupes de contestataires qui ont répliqué en jetant des bouteilles et d'autres objets. Les affrontements les plus durs se sont déroulés dans la soirée à l'intérieur d'un centre commercial où des centaines de contestataires avaient trouvé refuge après une charge de la police. Une fois entrés dans ce complexe, les policiers se sont retrouvés pris sous les jets de projectiles en provenance des niveaux supérieurs. L'un d'eux gisait inconscient, il y avait du sang sur le sol. Protégés par leurs boucliers armés de matraques, ils sont alors montés dans les étages, procédant à un grand nombre d'interpellations. Hong Kong est secoué depuis plus d'un mois par une vague de contestations, partie du rejet d'un projet de loi désormais suspendu visant à autoriser les extraditions vers la Chine.
Fin de ce journal sur VOA Afrique et nous retrouvons maintenant Yacouba Ouédraogo pour les dernières nouvelles de la Coupe d'Afrique des Nations.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de la CAN. La finale de la CAN Égypte 2019 opposera vendredi 19 juillet l'Algérie au Sénégal. Riyad Mahrez a envoyé les Fenech en finale près de 30 ans après leur dernier titre continental. L'ailier de Manchester City et capitaine des Algériens a logé son coup franc lumineux dans la lucarne juste avant le coup de sifflet final à la 95e minute. Auparavant, le score était de 1-1. Mahrez était déjà à l'origine du but contre son camp de Williams Tross et Kong à la 40e pour le 1-0. Puis les Nigériens ont réussi à se procurer un pénalty grâce à l'intervention de l'assistance vidéo. Suite à une main de Mandi dans la surface, Ighalo ne s'est pas fait prier pour égaliser. S'en est suivi le super coup franc de Mahrez pour le 2-1 qualificatif de l'Algérie pour la finale. Dans la première demi-finale, Sénégalais et Tunisiens aux prises sont passés par toutes les émotions. Alors que le score était de 0 à 0, trois faits marquants ont sonné sur tous les Lions de la Teranga qui se sont à chaque fois en sortie. D'abord, il leur a fallu se relever quand une main de Kalidou Koulibaly a provoqué un pénalty pour les Tunisiens. Mais le gardien Alfred Gomis a arrêté le tir de Ferdjani Sassi à la 75e. Puis, il leur a fallu encore se relever après qu'Henri Savet s'est raté dans le même exercice face au gardien tunisien Mouhez Hassen à la 80e. Il leur a fallu enfin résister à 3 minutes sous haute tension quand l'arbitre Bamlak Tessama a consulté la VAR pour une main d'Idrissa Gana Gueye à la 115e. Mais alors que Naïm Sliti était prêt pour tirer, l'arbitre éthiopien est revenu sur sa décision. Comble de ce scénario fou, le héros sénégalais et tunisien Dylan Brown a libéré les Lions malgré lui lors de la prolongation en repoussant dans ses filets une balle très mal dégagée par son gardien à la 100e minute de jeu. Des moments intenses de foot que même un entraîneur ne maîtrise pas. Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal.
Vous ne maîtrisez rien du tout à un moment donné. Il ne s'agit plus de tactique, il ne s'agit plus de technique. Ce sont des hommes à un moment donné qui sont sur le terrain. En réalité, vous êtes en dehors du terrain, vous criez partout, mais le message passe peu. Ce match d'aujourd'hui a été un match quand même incroyable, quoi. Je crois que ça restera dans les annales du football africain.
Un match remporté 1-0 par le Sénégal qui va jouer sa deuxième finale de CAN 17 ans après. Aliou Cissé.
Une fierté. Ça faisait 17 ans qu'on n'était pas arrivé à ce niveau-là depuis la génération 2002. Mais je crois que c'est à force de persévérance, à force de travail. Je suis du genre à vivre sur le banc le match. J'aime être à côté de mes garçons, vivre leurs souffrances, les pousser, aller au bout.
En face, les Tunisiens ont fait un gros match, mais le résultat n'a pas suivi. Alain Giresse, sélectionnait des Aigles de Carthage.
Quand on est éliminé, évidemment, c'est la première déception qui prévaut, évidemment. Dans ce genre de rencontre, l'important, c'est de se qualifier, d'aller jusqu'au bout, ce qui n'a pas été le cas. Après, bien sûr que on peut, sur la prestation de l'équipe, se dire qu'on était au niveau de l'équipe du Sénégal et au niveau de cette demi-finale. C'est bien peu, mais c'est déjà une chose.
Depuis Libreville au Gabon, Jules Valentin Ngoué revient sur ces deux demi-finales épiques.
Bonjour. Dans le double duel qui a opposé l'Afrique subsaharienne à l'Afrique du Nord, à travers les affiches Sénégal-Tunisie et Algérie-Nigéria, le Sénégal a gagné la première manche en arrachant dans la douleur un des tickets de la finale au terme d'une partie crispante et tendue. Les Tunisiens, fidèles à leur réputation d'Italiens d'Afrique, ont embarqué les Sénégalais dans un faux rythme, jouant au jeu du chat et de la souris tout au long de la rencontre qui s'est dénouée sur des maladresses. Avec deux pénaltys manqués pour les deux équipes et une sortie ratée du portier tunisien, provoquant un autogol d'un défenseur malheureux pendant les prolongations. Ainsi, 17 ans après Mali 2002, revoilà le Sénégal en finale de la plus grande compétition africaine des nations pour une nouvelle chance dans la quête du titre suprême. Il y retrouvera l'Algérie qui, à l'issue d'un match très relevé, a éliminé le Nigeria sur un magnifique coup franc de Riyad Mahrez à l'ultime seconde du temps additionnel. La puissance et la ténacité des Nigérians n'ont pas suffi pour venir à bout de Fenech, dont la qualité individuelle de l'effectif, bien exploitée par un collectif créatif sous la direction de Riyad Mahrez, un leader talentueux et décisif qui sait prendre ses responsabilités, a fini par faire la différence. La finale de vendredi, comme celle de 2008 au Ghana, va donc prendre l'allure d'une revanche pour les qualifiés du groupe C. C'est une finale de rêve entre deux équipes affamées. Le Sénégal, ce prince sans couronne, impatient d'être sacré, et l'Algérie qui a hâte d'étoffer un palmarès trop maigre et non conforme à la réputation de son football. Qui finira par terrasser l'autre? Réponse vendredi soir. À bientôt.
Dans le reste de l'actualité sportive, nous parlons de tennis. Novak Djokovic a remporté hier son 5e titre à Wimbledon, le 16e grand chelem de sa carrière en battant Roger Federer au terme de la finale la plus longue du tournoi. La première décidée au tie-break du 5e set après quasiment 5 heures de jeu. Le Serbe rejoint ici au palmarès le Suédois Bjorn Borg, lui aussi titré 5 fois à Londres. Chez les dames, c'est encore raté pour Serena Williams. L'Américaine a échoué dans sa quête du record absolu de grand chelem, tombée 6-2-6-2 en finale de Wimbledon face à Simona Halep, qui empoche, elle, son 2e majeur en près d'un an. Serena Williams a perdu sa 3e finale de Grand Chelem d'affilée après celle de Wimbledon et de l'US Open en 2018. C'est tout pour le Journal des Sports.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, dans le cadre du dialogue politique inclusif que le gouvernement s'apprête à organiser, un triumvirat a été mis en place, chargé de recueillir les avis des uns et des autres. Mais plusieurs partis politiques ne sont pas d'accord avec ce comité et l'organisation du dialogue national, nous dit notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Le gouvernement, conformément à sa feuille de route, issue de l'accord politique de gouvernance, tiendra très bientôt les réflexions sur l'avenir de la nation malienne et ses choix. Un exercice auquel le peuple malien dans son ensemble devrait être associé afin de garantir son caractère inclusif. Baba Akib Aïdara et professeur Djonkuna Traoré, ancien président de la République.
En tant que facilitateur, nous avions écrit à tous les anciens chefs d'État pour demander une audience. Nous allions nous déplacer pour aller les voir, leur présenter nos respects et puis échanger avec eux. Le président Djonkuna a estimé que c'est lui qui devait venir nous voir.
Nous avons échangé sur leur mission, nous avons essayé de voir quelles en sont les difficultés, également quels sont les atouts qu'ils ont, les leviers sur lesquels ils peuvent s'appuyer à se reparler. Notre pays est aujourd'hui un besoin de dialogue franc et sincère.
Mais d'ores et déjà, des voix discordantes se font entendre. Modibo Sidibé, ancien premier ministre et président du parti FAR.
Le dialogue national est absolument indispensable, mais il y a une démarche. Et cette démarche-là, il faut qu'elle soit respectée. On ne parle pas assez de la gouvernance dégradée en termes de confiance et de crédibilité entre les citoyens et ses dirigeants et la classe politique, y compris la société civile. Qu'on rétisse et qu'on ait nos propres liens de gouvernance et nos propres organes de régulation tels que nous, Maliens, nous les sommes. C'est ça qu'il faut pour notre pays. Si on veut aller au dialogue, tout en voulant maîtriser le dialogue, il n'y aura pas de dialogue national.
La présidente de l'ADEMA Association estime que la principale raison de ce dialogue national est de conduire le Mali vers une révision constitutionnelle. Si Kadiatousso.
Tout ce qui est là, le principal motif, c'est quoi? C'est de nous amener à réviser notre constitution pour intégrer la dans les dispositions de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger, parce que la communauté internationale qui soutient les rebelles qui ont pris les armes contre l'État malien, c'est parce qu'eux, ils veulent ça, et on veut qu'on tripatouille notre constitution pour mettre ça là-dedans. Nous, on se soulèvera contre ça, et on appellera le peuple malien à se soulever contre ça. Ça, il faut que ce soit vraiment très, très clair.
Certains partis politiques de l'ensemble pour la majorité présidentielle préparent activement le dialogue inclusif. Younous Ahmed Diko, président de l'EPM.
Les dialogues politiques inclusifs dont les structures ont déjà été mises en place par le président de la République. Cet accord sera notre bréviaire et le dialogue est en ce moment notre actualité. Concernant les dialogues politiques inclusifs, que les TDR seront validés dans un atelier avec les représentants de tous les partis politiques. C'est pour cela que les troisièmes assises d'EPM se dérouleront autour de l'appropriation de l'accord politique de gouvernance et la bonne organisation du dialogue politique inclusif.
Le premier ministre du Mali trouve que le dialogue national est nécessaire, voire incontournable. Docteur Boubou Cissé.
Le dialogue politique se matérialise et rentrera dans les jours à venir dans une phase active de consultation à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Politique et dialogue vont ensemble, car la politique dans sa manifestation quotidienne, ce sont les débats d'idées. Allons-nous nous écouter, nous entendre dans un esprit d'empathie, ou allons-nous plutôt mettre nos cœurs, nos visions du monde à nous en avant? Allons-nous ensemble chercher la vérité ou allons-nous chacun défendre nos vérités?
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Gabon, la Caisse nationale de sécurité sociale, croulant sous le poids d'une dette de plus de 400 milliards de francs CFA, a voulu reconsidérer le paiement mensuel des pensions et les retraités sont inquiets. Reportage d'Ismaël Obiangze, notre correspondant à Libreville.
Ambiance surchauffée devant le siège de la Caisse nationale de sécurité sociale à Libreville. Depuis plus de deux mois, l'institution est devenue le théâtre de sittings réguliers de retraités. Ils en ont après la réforme de la CNSS qui est revenue à l'ancien régime de paiement des pensions par trimestre pour, dit-elle, mieux organiser ses recouvrements. Jean-Joseph Kumba Kumba, porte-parole du collectif des retraités.
Nous ne pouvons pas comprendre qu'une société comme celle-là, qui est mieux organisée, ne puisse pas faire son recouvrement comme il se devait. Est-ce que nous sommes responsables de cette situation, nous les retraités? Je ne pense pas. Si c'est ça, qu'on ne le dise. C'est pas la CNSS qui organise notre gestion au quotidien. Nous avons des médicaments à payer. Vous regardez, vous voyez un peu tous ceux qui sont là. C'est des pères de famille. La moyenne, c'est 55 ans. Donc vous comprenez qu'à partir de 55 ans, pour les privés, et 60 ans, 65 ans, pour les fonctionnaires.
Dans les rangs, la tension monte chaque jour d'un cran devant un dispositif policier déployé sur le site. Les retraités ne baissent pas la garde.
On a les enfants qui partent à l'école, nous-mêmes, et les maisons qu'on loue, nous on fait comment? Deux ans sans salaire, c'est pas normal.
Incompétence, dans quel parc ne sont pas. Est-ce qu'il faut respecter les gens qui ont travaillé?
Nous demandons tout simplement le départ de l'école à Sélé.
Bien que sous pression, Dr Nicolas Sellé n'a pas visiblement l'intention de démissionner. La directrice de la Caisse nationale de sécurité sociale résiste aux attaques. Elle vient de créer un programme d'accompagnement social de la trimestrialisation des pensions. Dr Nicolas Sellé.
La mise en place immédiate d'une carte bancaire prépayée gratuite qui permettra à tous les retraités, bancarisés ou non, de retirer mensuellement leur pension s'ils le désirent auprès de nos partenaires financiers qui, eux, seront réglés trimestriellement par la Caisse nationale de sécurité sociale. Ceci pour rester à la fois conforme à la loi, aux contraintes de trésorerie et continuer à garantir un mieux-être aux retraités. Cette même carte prépayée ouvrira dans le même temps aux bénéficiaires le droit aux réductions sur les produits de consommation de première nécessité auprès de nos partenaires commerciaux, aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays.
Libreville, Ismaël Obionzé, VO Afrique.
Au Tchad, après 16 mois de coupure d'accès aux réseaux sociaux, le président Idriss Déby Itno a levé la mesure pendant le week-end à la clôture du forum Tchad numérique qui s'est tenu à N'Djamena. Selon les autorités, cette censure a été imposée dans un contexte de menace terroriste accrue afin de contrôler la communication électronique. De N'Djamena, notre correspondant André Kotmadjingar fait le point.
Aujourd'hui, une réévaluation de la situation me conduit à instruire, séance tenante, les services concernés de lever immédiatement ces mesures. Ça vous plaît pour autant, alors? Je n'avais pas dit tout.
Une annonce du président Déby qui a galvanisé un parterre de jeunes réunis à l'occasion du forum Tchad numérique sur les 20 ans après la restructuration du secteur des postes et des TIC au Tchad, bilan, défis et perspectives. Une censure imposée par le gouvernement à quelques jours de l'élection présidentielle très contestée d'avril 2018 par les acteurs politiques. La mobilisation de l'ONG Internet sans frontières et ses partenaires pour la levée de cette mesure a été vaine. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Les internautes tchadiens se réjouissent de cette décision.
Le réseau n'est pas bien et si on commence à faire des recherches aussi, ça marche pas des fois. On reste deux jours sans Internet. Merde, je suis vraiment énervée.
La restriction nous a un peu freinés dans notre développement. Et cette nouvelle vient à peine nommer.
On aura désormais à se connecter librement. Donc c'est une très bonne nouvelle.
Ainsi, la situation est rétablie et les internautes accèdent facilement aux principaux réseaux sociaux. Le président Déby lève non seulement la censure, mais il s'engage à œuvrer pour faire baisser le tarif de connexion Internet au Tchad.
Les opérateurs et l'État doivent conjuguer leur effort afin d'accompagner davantage la baisse des tarifs de connexion Internet. Au Tchad, j'attends à ce que le coût de l'Internet soit le moins élevé de la sous-région, tout en veillant à l'amélioration de la qualité des services fournis aux usagers.
Noubarasom Blaise, dans son organisation Internet sans frontières, avait mené des campagnes auprès des organisations internationales pour demander la levée de cette censure, dit avoir pris acte de cette décision.
Je prends acte juste de la décision du président. Ce qui a obligé le gouvernement tchadien à lever cette mesure, c'est les injonctions de l'Union européenne qui posent comme préalable à tout financement des prochaines élections la levée de cette mesure. Donc le gouvernement n'a pas d'autre solution que de se soumettre aux exigences des partenaires extérieurs.
Bien que la censure d'accès aux réseaux sociaux soit levée par le chef de l'État, le président du collectif tchadien contre la vie chère, Djingam Nael Nili Versinis, maintient son appel à une demi-journée sans téléphone ce mardi 16 juillet. Il donne les raisons.
Tant que le coût de communication n'est pas diminué,
Tant que le coût élevé de connexion à Internet n'est pas revu à la baisse, on va observer cette demi-journée de protestation contre RTL et Tigo.
Certains observateurs estiment que la levée de cette mesure ne sera que de courte durée, car avec les élections qui se pointent à l'horizon, les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets. André Kodmadjingar Ndiamena, VO Afrique.
Le Togo fait face actuellement à une pénurie de sang et le Centre national de transfusion sanguine, le CNTS, éprouve déjà du mal à répondre à toutes les demandes. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
La fine pluie de ce matin n'a pas empêché la trentaine de personnes de patienter sous un hangar dans l'enceinte du Centre national de transfusion sanguine, CNTS, à Lomé. Ce groupe d'hommes et de femmes est venu acheter du sang. Faute de disponibilité, ils font le pied de grue, espérant le précieux liquide vital. Pendant ce temps, dans le hall des donneurs, une seule personne attend et dans la salle de prélèvement, cinq personnes donnent de leur sang. Pour ces donneurs, les motivations divergent avec un même objectif, sauver des vies.
Je suis donneur, ça fait 2 ans pratiquement. J'ai un idole qui s'appelle Cristiano Ronaldo. Lui, à tout moment, il donne son sang. Est-ce qu'il me pousse à le faire pour sauver des vies?
Moi, je suis déjà donneur il y a bien longtemps. J'ai assisté à des pénuries de sang au moment où je suis un malade. Et j'ai constaté que c'était un geste vraiment qui pouvait secourir bon nombre de personnes.
Le Togo n'a jamais pu disposer d'une banque de sang assez conséquente pour couvrir la demande nationale. Une situation à l'origine de plusieurs décès pourtant évitables. La pénurie s'accentue à partir du mois d'avril, explique Yao Senatete, responsable collecte mobile au CNTS.
Depuis le mois d'avril jusqu'en septembre, le centre de transfusion sanguine traverse un grand moment de pénurie, dû au fait que la grande population de nos donneurs sont des élèves. Et à partir du mois d'avril, mai, ils commencent les révisions et les examens. Alors que, en ce moment, nous rentrons dans la saison pluvieuse et il y a l'eau qui stagne un peu partout, d'où la multiplication des moustiques. Et par après, c'est le paludisme qui sévit, surtout paludisme, forme anémique. Et c'est ça qui fait que, en ce moment, vous allez voir qu'il y a plein de gens qui attendent à prendre des poches de sang.
Sous le hangar, la patience est mise à rude épreuve. Anémie et faute de n'avoir pas pu trouver du sang, cette jeune dame en attente de subir d'urgence une intervention chirurgicale voit son opération. Repoussée. Je viens ici depuis 3 jours. Le premier jour, j'y ai passé toute la journée. Le second jour, pareil. Ce n'est qu'aux environs de 19h30 qui m'ont fait savoir que le groupe sanguin que je recherche n'est pas disponible. Quand j'ai voulu me plaindre, le guichetier m'a craché à la figure que ceux qui sont donneurs n'en trouvent pas. Qu'en est-il de moi qui ne suis même pas donneur? Minlip Diemon est aussi en attente. Il a besoin de 4 poches de sang pour son parent hospitalisé. Grâce à son statut de donneur, il a pu trouver 2 poches de sang et depuis une semaine, il patiente, redoutant le pire.
Je n'ai fait que trouver 2 poches de sang. Et jusqu'alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Au moins, il faut qu'ils nous disent ceux qui sont de tel groupe, aujourd'hui, il n'y a pas votre sang. Là, on peut savoir ce qu'il faut faire, quoi.
Grace Koudou a été transfusée plusieurs fois. Drépanocytaire et ne pouvait pas donner de sang, elle ne rate aucune occasion pour sensibiliser la population à poser cet acte qui sauve des vies.
Je suis drépanocytaire homozygote. J'ai commencé les transfusions depuis l'enfance, donc je ne peux pas donner de sang. C'est pour cela qu'à chaque fois, je m'associe à des campagnes de don de sang parce que je sais l'importance que cela a.
Pour encourager la population à pouvoir donner du sang, le CNTS a opté pour des mesures incitatives. Yao Senatete, responsable collecte mobile au CNTS.
Le donneur du sang, si c'est lui-même qui a besoin du sang, on lui sert les poches gratuitement. Si c'est un parent biologique, c'est-à-dire son papa, sa maman, sa femme et ses enfants, on réduit à moitié le prix de la session. Quel que soit le nombre qui attend, aussitôt lui il arrive avec sa carte de donneur de sang, on lui prend en charge, on lui serre les poches, à condition que sa poche soit dans notre banque.
Face à la chronique pénurie de sang, le Centre national de transfusion sanguine diversifie ses sites de collecte. En plus des établissements scolaires et universitaires, les collectes mobiles sont organisées dans des églises, mosquées, dans les entreprises ou encore dans des groupes organisés. En 2018, tous les centres de transfusion sanguine du pays ont produit 50 023 poches de sang contre une demande estimée à plus de 75 000 poches. Kyle Sam, Lomé, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Nachwan Kale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Edrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.